Les cloud providers ne se limitent pas à AWS, GCP ou Azure, loin s'en faut. L'offre européenne, si elle ne rivalise pas en taille, a souvent d'autres atouts pour tirer son épingle du jeu, notamment en termes de réversibilité ou de souveraineté de la donnée. Parmi ces acteurs encore trop souvent méconnus du grand public, il y a Scaleway, un cloud provider à la pointe de l'innovation, surtout quand on pense à Capsule, Cosmos ou aux fonctions as a service. Mais alors, quelle stratégie adopter lorsqu'on grandit dans l'ombre des géants du secteur? C'est une question à laquelle Gaspard Plantrou n'a pas eu de mal à me répondre. Gaspard est VP Pass Product chez Scaleway et aujourd'hui, il nous partage sa vision sur le présent et l'avenir des produits de Scaleway. Gaspard, bonjour, bienvenue.
Bonjour Stéphane.
Alors, tu es VP Pass Product chez Scaleway. Qu'est-ce que c'est ce titre?
Alors, je suis responsable d'une équipe de Product Manager, donc c'est la partie Product, qui s'occupe de réfléchir, définir et spécifier les produits que l'on met dans la section Platform as a Service dans notre écosystème cloud.
Ok. Et quelques produits par exemple?
Alors, ça couvre aujourd'hui les produits tels que notre Kubernetes managé, les bases de données managées, beaucoup de produits qui sont en cours de développement. On peut aussi voir dans cette gamme-là tous les produits de la gamme serverless, Function as a Service, Container as a Service, par exemple.
Function as a Service qui vient juste de passer en GA, si j'ai
Exactement.
Bien suivi l'actualité. Et alors, c'est super intéressant. Comment, alors, ton rôle dans tout ça, donc tu manages un peu, tu chapeautes, c'est quoi ton day-to-day?
Mon day-to-day, déjà, c'est de manager une équipe. Mon travail, c'est de leur fournir du contexte pour qu'ils puissent travailler et réfléchir aux produits qui répondent à une certaine problématique. Le contexte que je vais leur donner, c'est un contexte stratégique, c'est-à-dire Scaleway, en tant que cloud provider, nous avons une vision. De cette vision, je vais en décliner une stratégie produit, c'est-à-dire que les produits PaaS de Scaleway, nous souhaitons qu'ils favorisent tel type d'architecture ou tel autre use case. À partir de cette stratégie qui est définie en accord avec les product managers vont en décliner leur vision produit. Comment le produit va répondre d'un côté à des problématiques clients tout en respectant la stratégie et la vision plus globale de Scaleway.
Alors, la stratégie, comment tu l'as définie aussi, c'est... Tu lis des articles pour te tenir informé un peu de la hype ou de ce que les gens veulent adopter, ou par quel autre mécanisme, en fait, tu sens justement quelles sont les choses qui ont de l'attrait en ce moment?
Alors, quand on travaille sur une stratégie, il faut réfléchir sur le long terme généralement. Donc, il faut éviter de se faire trop attirer par la hype ou ce qui est trendy. Ma manière de travailler récemment dans mes derniers travaux, ça a été majoritairement d'aller à beaucoup de conférences, majoritairement des conférences sur tout ce qui est la containerisation et le serverless, où c'était un point très particulier de Scaleway, d'aller voir les clients, en fait, rencontrer les clients, de comprendre moi-même pourquoi ces clients avaient des architectures qui étaient considérées comme legacy? Quelle est la définition d'une architecture cloud? Comprendre aussi quelles sont nos forces et nos faiblesses en interne de nos produits. Et en fait, quand on fait on résume tout ça et on regarde toute la picture, la manière dont j'ai travaillé, c'est que tout s'est articulé de manière logique, c'est-à-dire qu'on a des produits qui ont une certaine force, qui correspondent à une certaine vision du marché. Toutes les applications conteneurisées, par exemple, c'est cohérent de pousser notre stratégie autour de ces produits. On a d'autres catégories de produits qui sont en avance d'une certaine manière sur le marché, qui correspondent à un besoin qui est peut-être un peu plus embryonnaire. On va décliner cette stratégie en un pari mesuré pour dire on va aussi orienter notre communication, notre produit, notre développement produit, le choix des produits qu'on va développer autour de cette architecture. On a fait le choix aujourd'hui chez Scaleway d'essayer de se enfin en tout cas dans ma division, de se concentrer autour des applications conteneurisées, donc de favoriser les clients, d'attirer les clients qui travaillent sur des applications conteneurisées. Et ça va driver en fait le choix des product managers quand ils vont définir, moi, est-ce qu'il faut que je développe telle feature ou telle feature. On va toujours se rappeler à la stratégie et à la vision d'ensemble. Est-ce que je contribue à fournir du service à tel type de client ou à tel autre type de client ? Parce qu'à l'arrivée, c'est toujours une histoire de choix. Dans l'écosystème cloud aujourd'hui, il est proche d'être infini dans le type de produits et de features qu'on peut sortir. Donc, on pourrait se borner littéralement à prendre une liste de courses infinie et de dire on va faire ça, 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 ça. Mon travail, c'est de réussir à prioriser et de amener une certaine logique dans les produits et les features qu'on sorte pour que cette logique en fait parle à nos clients et à nos futurs clients pour qu'ils viennent chez nous en fait.
Ça concerne les clients déjà en place, donc tu es à l'écoute de tes clients actuels et de leurs besoins en termes d'évolution tout aussi bien que des clients potentiels qui ont leurs propres besoins eux également. Parce que d'une certaine manière, faire de l'attraction, par exemple, sur les containers pour faire venir des clients, généralement, tu as des clients, ils ont plus des architectures assez hybrides où ils vont mêler peut-être du legacy, donc ils ont quelques VM, ils ont quelques containers, peut-être qu'ils ont d'autres composants. Et un seul driver, est-ce que ça suffit pour les faire venir ?
Non. Aujourd'hui, effectivement, donc tu l'as dit, il y a interrogé nos clients actuels qui ont beaucoup de qualités et la plupart, c'est le défaut d'être déjà des cloud natifs. Donc, pour eux, le cloud, c'est évident. Et effectivement, aller à la rencontre de toute cette masse de prospects, de clients potentiels qui connaissent mal ou peu le cloud. Et effectivement, pour moi et pour nous, c'est ultra important de savoir sur qui on doit se concentrer et à qui on doit amener de la valeur ajoutée.
Aujourd'hui, j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de produits cloud natifs qui commencent à venir on-prem. On peut citer par exemple du S3, on peut citer Cube, évidemment. Et finalement, les architectures cloud drivées par des API, c'est leur gros avantage, versus des architectures plus on-prem, ont plus tant de différences que ça, d'une certaine manière. Donc j'imagine pour certains clients, ça doit être quand même plus facile de songer à passer sur une infrastructure cloud.
On-prem, plutôt que d'aller directement sur le cloud.
Non, ce que je veux dire, c'est puisque maintenant, les outils qui avaient fait la force du cloud avant, S3 par exemple, et ça faisait de l'attraction vers le cloud, maintenant que c'est on-prem, les gens sont familiarisés avec ce qu'on peut retrouver dans le cloud. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de passer dans le cloud qu'avant, parce que on change pas forcément d'architecture totalement.
Oui, on va directement, en fait, on va pas avoir à réécrire tout l'aspect applicatif, on va juste voir qui est généralement ce qui fait peur quand on passe du on-prem vers le cloud. On va littéralement pouvoir se dire, en fait, je vais économiser la gestion des serveurs, les problématiques liées à, si je suis sur du on-prem, à avoir tout mon stock de composants prêts pour les remplacer et de pouvoir du coup se déférer de toutes ces problématiques au cloud provider. Et effectivement, vu de cet aspect, ça paraît un petit peu évident et le gap est beaucoup plus simple. Et on est totalement d'accord que pour justement migrer du on-prem vers le cloud, c'est ultra dur de le faire from scratch et il faut passer par des étapes intermédiaires. Et d'une certaine manière, chez Scaleway, on a envie de croire que le multi-cloud, c'est une des manières de pouvoir faire cette étape. En fait, dans multi-cloud, il y a multi et il y a cloud, donc ce n'est pas spécialement parlant, mais on peut tout à fait mixer du on-prem et du cloud. Et donc, on va parler de Kubernetes, donc on a un Kubernetes managé cloud et on a une version qui permet de mixer la répartition des nodes chez un cloud provider comme nous, comme AWS, comme OVH, et aussi pouvoir répartir ces nodes sur du on-prem si ça vous fait plaisir. Et du coup, ça permet d'avoir une première approche du cloud, de commencer à goûter, de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir y aller progressivement.
Alors, le multi-cloud, on peut avoir plusieurs définitions. J'imagine que chaque cloud provider a un peu la sienne. Chez Google, ça a été de sortir Kubernetes en disant on peut l'installer sur plusieurs cloud providers et puis porter ses applications de l'un à l'autre. Mais une autre définition pourrait être autoriser la réversibilité. Quelle est la vision de Scaleway, justement, entre les deux?
La vision de Scaleway, elle est... Comment expliquer ça? Quand on définit les produits en interne, quand on travaille sur les features, on se pose toujours et en premier la question de comment je peux favoriser le multi-cloud. Et effectivement, la définition de multi-cloud, elle peut s'appliquer de manière différente suivant les produits. Tu l'as tout à fait dit, avec un Kubernetes, avec un produit Cosmos, on peut... Littéralement, ça consiste à dire je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais répartir mes œufs sur plusieurs cloud providers. Donc ça, c'est la version la plus évidente d'un aspect multi-cloud. Effectivement, la réversibilité et l'absence de lock-in est pour moi et pour nous une itération de la vision du multi-cloud. Object Storage, S3, pour ne pas le citer, le fait de ne pas choisir, enfin, ou plutôt, je vais te tourner positivement, le fait de choisir un standard comme S3, qui s'est imposé sur le marché et qui a été créé par AWS, et le fait de choisir ce standard, et bien du coup, ça veut dire qu'un développeur, une application qui va stocker ses données dans l'object storage basé sur S3, il va pouvoir choisir son cloud provider juste en changeant le endpoint. Et ça veut dire qu'il peut venir repartir, répartir de manière globale. Il peut se dire, je vais prendre plusieurs endpoints pour répartir mes données sur plusieurs cloud providers. Et ça, pour moi, c'est une approche multi-cloud. Si jamais tu prends une approche où tu vas locker les gens avec, venez chez nous, on a un super produit, il n'est pas cher, mais par contre, vous allez devoir, notre Object Storage, il répond à cette API qui n'est pas compatible avec les autres. Ça peut être attirant d'une certaine manière, mais c'est enfermer les gens ensuite dans un cas d'utilisation. Et c'est clairement pas ce qu'on souhaite faire. Et du coup, le travail des chefs de produits, vu que c'est aujourd'hui et clairement identifié dans notre ADN, et tu parlais des cloud providers, et tout le monde n'a pas cette approche, littéralement. Pour tous les produits, notre question numéro un, c'est comment je peux améliorer ce produit pour le rendre multi-cloud? Comment je peux donner plus de choix aux clients? Alors, des fois, c'est évident. Des fois, ça l'est moins. Donc, il faut réfléchir à l'approche qui fait que aujourd'hui, sur un produit comme Container as a Service, on s'est rendu compte, c'est un produit qui est en développement depuis très longtemps chez nous, qui a eu une très longue genèse, qui est relativement puissant. Et on s'est rendu compte, bêtement, on n'y avait pas réfléchi, mais qu'on avait limité à la registrie de Scaleway. Et ça, littéralement, ce n'est pas très multi-cloud, de devoir imposer l'utilisation d'un produit pour consommer un autre. Et c'est quelque chose qu'on était trop focalisé sur le lancement du produit, et c'est quelque chose qu'on va corriger dans les semaines à venir pour se dire, mais pourquoi on limiterait les gens et les forcer à utiliser notre registrie, alors qu'ils peuvent tout à fait, vu qu'on est basé sur standard, ils peuvent tout à fait aller se baser sur une autre.
Il y a des... J'appelais ça des frameworks qui facilitent aujourd'hui la standardisation. On a eu OpenStack, évidemment, on a Cube, on a un écosystème qui se fait sur Cube, par exemple Knative, qui permet de faire de la fonction. Et avec ça, on arrive à avoir certains standards. Par contre, quand on arrive à des produits plus spécifiques, comme de la DB as a Service, ça devient plus épineux d'avoir un standard partagé avec d'autres. Et généralement, on a une implémentation qui est propre. Et si on veut en plus donner de la simplicité au client, est-ce que des fois, ça ne loque pas, mais involontairement? Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu as cette approche à te dire « mais j'aimerais bien quand même favoriser l'ouverture
» C'est pire qu'un sujet d'actualité. Je pense que j'ai eu cette discussion il y a 2 jours avec le chef de produit. Et effectivement, dans le nerf de la guerre. Du coup, sur les bases de données managées, les bases de données managées, ça reste du stockage. Donc, on pourrait dire, comme sur de l'object storage, par exemple, j'ai la volonté de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Sauf que ça va poser des problématiques de latence, de performance de la base de données. Donc, ça ne nous paraît pas pertinent. Même s'il y a des use cases qu'on va favoriser pour ça, très précis. Sur la base de données, c'est pas la vision multi-cloud, c'est par exemple de donner accès au backup logique et permettre un export logique de la base de données, que ce soit sur PostgreSQL ou sur MySQL, qui permet en fait de prendre cette base de données et de partir. On appelle ça EasyCom, EasyGo, de venir facilement chez nous, ça il faut qu'on le favorise plus, mais aussi de partir. C'est-à-dire que vous avez la main sur votre contenu. C'est pas stocké de manière cachée quelque part chez nous et c'est nous qui sommes les maîtres de ces données. Ces données, on souhaite que vous en restez maître. Et si vous voulez partir, aller essayer quelqu'un d'autre, ces données, vous y avez toujours accès. Et c'est en cette approche-là que, même si c'est un standard, mais dans notre implémentation, on a fait évidemment à notre sauce la base de données managée, mais le fait de rester sur du PostgreSQL et du MySQL pour le moment, et de permettre ces exports logiques et d'avoir la main sur ces exports, c'est une manière d'avoir un point de vue multi-cloud sur l'histoire.
Ok, ça, c'est très bien ça. Cette approche-là, justement, de se dire, bon, on n'est pas bloqué, en tout cas, peut-être qu'on est bloqué dans le produit quand on l'utilise, mais si on veut en sortir, à tout moment, on a le choix de le faire.
Exactement.
Alors, être un cloud provider en 2021, donc Scaleway n'est pas né hier non plus, mais je veux dire, c'est quand même un nouvel acteur dans le paysage. Comment on fait par rapport à une concurrence telle que Amazon, Google et Azure aujourd'hui? Quelle stratégie on adopte vis-à-vis de cela pour essayer de faire sa place?
Premièrement, il faut rester humble. C'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on est en mesure de se mesurer, littéralement. Amazon, Google sont là depuis plusieurs dizaines d'années pour AWS. C'est eux qui ont inventé d'une certaine manière le cloud public. Ils représentent une part de marché significative. Donc, il faut savoir là où on peut se battre. Enfin, il faut choisir ses combats. La différence de Scaleway par rapport à des acteurs américains, par exemple, c'est déjà de ne pas être américain, donc de ne pas être soumis aux mêmes lois. On a, c'est quelque chose qu'on met en avant, là, on est un acteur souverain. On a la propriété de tous nos data centers en France. C'est-à-dire qu'on maîtrise toute la stack technique, matérielle, technique et logique des produits qu'on fournit. L'aspect souverain est très important pour les clients européens. Le Cloud Act fait peur à beaucoup d'acteurs et beaucoup de nos potentiels clients. Et le fait d'avoir affaire à un cloud provider européen est très rassurant. Par contre, effectivement, il est super important d'avoir un écosystème cohérent qui réponde aux besoins. Parce que c'est bien joli de dire on est européen, vos données sont stockées en France, elles ne sont pas accessibles par le gouvernement américain. Après, il faut quand même avoir une offre de services cohérente, identifiable, identifiée au juste prix et qui répond à leurs besoins. Donc, c'est là-dessus que nous, on se positionne.
D'accord. D'après toi, c'est les building blocks de base, on va dire, ce serait quoi à l'heure actuelle pour venir dans le cloud?
Les building blocks de base pour venir dans le cloud, du on-prem vers le cloud?
Ouais. Ou même, je veux dire, commencer dans le cloud, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de startups qui aujourd'hui ne pensent même plus à créer leur propre data center. Aujourd'hui, pour faire tourner une application, pour faire tourner un business, tu penses que les briques dont on a besoin, c'est quoi? À minima.
En tant que client du cloud, pas en tant qu'acteur du cloud, on est d'accord?
Ouais, ouais.
À minima, il faut avoir de la sécurité, donc toute la notion de réseau privé et sécurité. Il faut avoir du stockage. Je pense que S3, ça a été inventé par AWS en même temps que leurs instances publiques, et c'est pas anodin. Et ensuite, il faut avoir des ressources de compute. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est une base minimum et nécessaire. Quand tu avances dans la compréhension, dans les services que tu veux y apporter, il va y avoir plein de services satellites qui vont venir se greffer, une base de données managée ici, potentiellement un Kubernetes managé, mais on va dire que on va pas imposer aux clients et c'est pas naturel pour tout le monde d'aller là-dessus, mais une base de données managée, c'est pas très loin derrière, et après tous les services au fur et à mesure qui vont se connecter et s'interconnecter. L'aspect d'écosystème est ultra important pour un cloud provider.
D'accord, c'est étonnant parce que finalement, les briques de base n'ont pas tellement changé en 10 ans.
Je pense pas, non.
Même en 15. À part la sécurité, peut-être qu'il s'est un peu renforcé par rapport à ce qu'on avait avant.
J'imagine que c'est d'expérience. Le cloud, on n'est plus, entre guillemets, maître de ces données, on a confié ces données et ces... Oui, on a littéralement confié ces données à quelqu'un d'autre. On va dire qu'on a la chance d'arriver après certaines batailles. Tout ce qui est vulnérabilité, donc on a appris, on va dire, des erreurs des autres. Et ce qui était pas un sujet il y a peut-être 15 ans est devenu un sujet il y a peut-être 10 ans. Et aujourd'hui, c'est mainstream et ça vient quasiment nativement avec la plupart des cloud providers.
Par rapport au paysage de tes clients, est-ce que c'est plutôt des clients d'entreprise déjà bien établi, ou alors est-ce que tu as beaucoup de startups qui vont avoir une approche totalement cloud native de leur business et déjà vouloir jour 1 des fonctions, jour 1 du Kubernetes et d'autres abstractions comme celle-là?
C'est une question très intéressante. On a un mix des deux. Il y a effectivement, on va appeler ça des gens qui sont plus qui viennent plus du legacy et qui ont vocation à migrer, à venir, et pour eux c'est un effort important et il est très important de les accompagner. Et à l'opposé de ça, il y a tous les cloud natives qui peuvent être des startups ou des boîtes établies qui ont peut-être commencé par du on-prem et qui, elles, effectivement vont connaître from scratch les technos. Parce qu'elles l'ont appris à l'école, parce que le CTO, les devs vont être suffisamment influents et qui vont connaître exactement l'architecture. On voit aussi beaucoup quand on parle de startups, on voit aussi beaucoup de startups qui ont une approche différente, c'est-à-dire elles savent qu'il faut aller vers le cloud parce qu'elles n'ont pas fatalement les capex et l'argent à mettre en place pour avoir mon propre serveur. Donc elles savent que le cloud est pour elles une manière de se développer et de montrer leur valeur. Mais à côté de ça, elles n'ont pas toutes les notions d'architecture, de DevOps, et elles ont des développeurs, dans le meilleur des cas plusieurs, et il est important, elles aussi, de pouvoir leur proposer un écosystème de produits pour lesquels l'infrastructure va être offusquée, et de leur proposer des solutions qui vont leur permettre de se concentrer sur leur applicatif. Et quand elles auront grandi significativement, quand l'infrastructure sera un sujet pour elles, elles pourront grandir et faire évoluer tout ça. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a effectivement des gens qui vont arriver et disent « moi je sais que je veux du Kubernetes, j'ai déjà tout à fait parce que tout chez moi, toutes mes applications, tout est organisé en microservices, tout est containerisé, donc je sais ce que je veux. » Et il y en a d'autres qui vont dire « mais j'ai aucune notion de tout ça, je veux juste vous pousser du code, est-ce que vous pouvez l'héberger s'il vous plaît ?» Et il faut pouvoir répondre à tout ce genre de problématiques.
Ouais, et j'imagine aussi que c'est un gros travail de marketing, parce que aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que les fonctions as a service existent. Scaleway vient de passer en GA, donc c'est super, on peut l'utiliser de la même manière, mais aujourd'hui, Lambda, c'est vraiment la reine de la fonction, très difficile de l'égaler, et même les autres gros cloud providers aujourd'hui n'ont pas les mêmes performances que du Lambda. Comment justement faire un lancement marketing autour d'un produit comme celui-là? C'est compliqué. Comment arriver à faire de l'attraction dessus?
Alors, c'est simple et compliqué, mais surtout compliqué, effectivement. Premier point, au-delà du marketing, même si, effectivement, dans les gros cloud providers, AWS, Azure, ils ont évidemment leur fonction. Néanmoins, on a quand même, chez Scaleway, on est les premiers du reste de la meute. En tant que, déjà, d'être capable de fournir le service, on est capable de dire, ben voilà, on est le premier cloud provider européen à sortir un function as a service. Pour serverless, de manière globale, on se rend compte qu'il y a un besoin, au-delà du marketing et de comment s'en sortir, il y a un besoin d'évangélisation. Tout le monde sur le marché n'est pas familier avec les notions de serverless. Et toute cette évangélisation est un travail de fond et de longue haleine à faire. Et littéralement, les cloud providers américains ont commencé cette évangélisation et nous, ça nous permet de surfer et de pouvoir nous différencier sur ces aspects. Notre différenciant, comme tout à l'heure, et pour le lancement du produit, c'est d'insister sur le fait que, effectivement, le produit serverless est au sein d'un écosystème souverain, donc l'écosystème Scaleway, qu'il va venir travailler et s'interconnecter avec les différentes briques, de l'object storage, des bases de données managées, potentiellement du Kubernetes, et qu'il répond au même cahier des charges que tous les autres produits. Le plus compliqué pour le lancement d'un produit comme ça, c'est trouver l'angle pour expliquer en quoi le paradigme serverless est quelque chose de nouveau. J'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, il y a certaines startups qui veulent pousser du code. Littéralement, ils n'ont pas envie de réfléchir à l'infra. Serverless répond d'une certaine manière à ce besoin, mais c'est absolument pas évident pour tout le monde. Et surtout qu'on parle de termes, le cloud de manière globale, même si tout le monde, je pense qu'on peut faire un micro-trottoir, tout le monde connaît le cloud, tout le monde va être capable de dire, c'est là où sont stockées mes photos de vacances, littéralement. Aller plus loin et au-delà de cette compréhension et de savoir que ces endroits où il va y avoir des ressources de calcul, des ressources de stockage qui vont travailler pour vous comme un ordinateur, c'est ça qui est plus compliqué, en fait, parce que les gens n'ont pas cette compréhension. Et du coup, leur expliquer que au-delà d'avoir un ordinateur dans le cloud, on va dire, on va te donner accès à un ordinateur juste le temps où ton application en a besoin. C'est des paradigmes et des concepts qui sont très nouveaux, en fait. Et c'est pour ça, et c'est des concepts en lesquels on croit et des concepts sur lesquels on pense qu'on a une bonne vision et visibilité sur le marché.
Et donc, la fonction as a service, puisqu'on est parti là-dessus, finalement, c'est toi qui l'as pondu, entre guillemets. Donc, comment ça se passe? Comment, on va dire, ça s'est passé? Quel a été le cheminement dès le jour 1 qui ont fait que tu as voulu miser sur ce produit? Comment après ça a évolué et pour en arriver finalement jusqu'à la GA?
Alors ça, c'est une bonne question, une très longue question. Premièrement, je n'étais pas là à la genèse. Littéralement, les idées des produits, elles viennent plutôt de mes collaborateurs qui sont les product managers. Moi, je leur donne une direction et généralement, les idées géniales viennent d'eux, rarement de moi. Sur le produit Function as a Service, ça a été une longue genèse. C'était une anticipation il y a environ 2 ans et demi. Je pense que vous pouvez reprendre les vidéos du Scale Day d'il y a 2 ans et demi. On a parlé pour la première fois de serverless. C'était la vision de mon prédécesseur et que j'ai continué, la trace que j'ai continué, la vision de se dire que serverless, c'est quelque chose qui parle à une certaine partie de nos clients et on pense que ça va être quelque chose qui va fonctionner. C'est un produit très compliqué à faire en termes d'exécution, ressources engineering, pour avoir un produit de qualité, pour éviter toutes les problématiques de cold start, pour avoir quelque chose qui amène plus de choses qui amène plus de qualité que de problèmes qu'il amène. Donc ça a été un produit long à fabriquer. Il y a eu pas mal de pas changement de direction, mais de changer d'idée. Au début, on s'était concentré, par exemple, sur du CAS, donc le Container as a Service. On a évolué, on a réussi à en faire du... On a décidé de séparer les deux tracks, donc une track qui donne un Container as a Service en mode serverless, c'est-à-dire que vous poussez votre conteneur et nous, on va s'occuper de sa scalabilité, et très important jusqu'à zéro, c'est-à-dire que si votre applicatif n'est pas appelé, vous ne payez rien. Et on a décidé de séparer la track FAS, Function as a Service, qui en fait répondait à deux besoins et deux types de clients différents. Ensuite, on a donc sorti le produit en bêta pour récupérer le feedback des clients, relativement longtemps pour corriger les problématiques qu'on avait, l'améliorer. Une des grandes questions, et c'est ça qui va sortir dans les semaines et les mois à venir, c'est comment mieux l'intégrer dans l'écosystème. Aujourd'hui, les deux produits sont sortis, ils répondent à beaucoup de problématiques pour nos clients, et c'est pour cette raison qu'on a décidé de les sortir. Néanmoins, on a une roadmap longue comme le bras pour avoir une plus forte intégration dans l'écosystème. Aujourd'hui, on travaille très fortement sur l'intégration entre notre produit Functions et Object Storage, tel que l'a fait AWS. Il y a les endpoint lambda qui sont très importants, tout ce qui est en termes de bucket notification, le fait de pouvoir déclencher un lambda par une modification, donc l'arrivée, la modification, la suppression d'un objet dans un bucket, ça c'est un use case très important. et de manière plus globale, une plus profonde intégration du produit à l'intérieur de l'écosystème. Et là, littéralement, en fait, les chefs de produit partent d'une idée, feuille blanche, idée, ensuite retour client ultra important, sur un développement produit, je pense, dans la plupart des sociétés, c'est une histoire de compromis. On va se retrouver entre un désir du chef de produit et la réalité technique engineering, c'est-à-dire tu veux ça, mais on n'est pas capable de le faire, donc on te donne le choix entre faire, tu veux la solution A et nous on peut faire que B, C ou D. Donc le chef de produit va amener la vision produit, la vision client, ok, donc pour répondre à la problématique de client, je pense que l'option D est celle qui est la plus souhaitable. Donc on transforme un petit peu le produit en restant le plus proche possible de la vision initiale, et ensuite on va le tester sur le marché avec des bêtas successives, et une fois qu'on a un degré de satisfaction et de qualité suffisant, on l'amène sur le marché, comme on l'a fait du coup avec Functions et Containers en début de mois, je crois, au début du mois de novembre, oui, pour mettre dans le contexte.
Ok, et donc, explique-moi plus la phase de bêta, comment ça se passe? N'importe qui a accès à la bêta, c'est des bêtas privées, vous ciblez plus peut-être des clients d'entreprise ou pas du tout?
Ça dépend littéralement des produits. Il y a des produits pour lesquels une bêta en fait est peu importante parce qu'il y a certains clients pour lesquels le mot bêta va faire peur. Et du coup, ils ne vont pas tester ou ne vont pas mettre un workload suffisant pour que ça nous permette d'en retirer quelque chose. Sur un produit comme les produits serverless, ça n'a pas été le cas. Il y a des gens qui ont mis leur prod dessus. C'était une bêta. Donc, on a commencé par une private bêta, en fait, quelques happy few pour regarder comment ça se passe. Et généralement, au bout d'une à deux semaines, quand on considère que on n'a pas de problème majeur, tout se passe bien, on va ouvrir une bêta publique. C'est comme ça que ça se passe. Suivant les produits et les investissements qui ont été mis et le service qui est rendu, ça va être le choix d'une bêta publique gratuite ou payante. Généralement, c'est une question qui se pose par le product manager. Et ensuite vient l'animation de la bêta à proprement parler. Donc, généralement, ça se passe via notre Slack community. Donc, il y a des chans dédiés pour tel service en bêta. Le product manager va contacter de manière fréquente les clients. On va réussir à les identifier d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a eu des patterns, des bugs qui ont été trouvés qui vont nous permettre de reproduire des use cases nouveaux et intéressants, des clients qui potentiellement utiliser une prod sur un produit bêta, et on va pouvoir pérenniser là-dessus et construire avec le client pour justement définir comment vous verriez une amélioration, est-ce que vous en êtes satisfait, qu'est-ce qui vous manque, pourquoi vous en êtes satisfait littéralement, c'est aussi des questions qui des fois, les réponses à ces questions sont parfois étonnantes, comment vous l'utilisez, ça peut être aussi très étonnant parce que ça peut être très éloigné de ce qu'on avait pensé à l'origine, et c'est comme ça que le produit au fur et à mesure se définit et se raffine pour en faire le produit qui sort et qui va être marketé, vendu et poussé sur notre site web.
Ça veut dire que les choix difficiles en tant que product manager, ils sont faits quand même pendant la bêta, parce que si je me mettais à ta place, ce serait quand même très compliqué. Je sors une bêta et j'ai des utilisateurs qui commencent à l'utiliser en production, ce qui est très chouette d'un côté, mais d'un autre côté, je sais que c'est un produit qui va peut-être encore pas mal bouger. Donc, c'est inquiétant d'un autre côté de se dire, il y en a qui ont déjà mis leur production dessus, donc si je change trop le produit, ça va casser ce qu'ils sont déjà en train de faire tourner.
Ouais. Déjà, un produit en bêta, c'est un produit qui peut être redémarré à n'importe quel moment. Il n'y a aucune garantie sur la pérennité. Il n'y a pas de garantie de service. Nos clients, on les prévient de ça, il y en a qui ont tellement besoin du produit qu'ils quand même vont mettre une production dessus. On évite de faire trop de breaking chain, c'est quand même dans l'ADN de beaucoup de nos développeurs et on se dit non, il y a un service, il y a une continuité à assurer et généralement, c'est les questions qui centralisent ce sont les gros points d'attention. Je crois me rappeler que sur Functions, on est passé d'une V1 à une V2, il y avait un petit breaking change. Ça a été une semaine de discussion en interne, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'on attend la GA, et on a décidé d'anticiper quand même, mais c'est vraiment quand on va modifier quelque chose, même si on est en bêta, c'est vraiment les moments où il y a les discussions compliquées pour savoir est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans l'univers du logiciel, donc c'est très important à la fois de fournir une continuité de service, mais on a la chance de pouvoir livrer en continu des améliorations. Et ça, c'est quand même assez magique de se dire, bah voilà, on a lancé un produit. Une semaine plus tard, déjà, on peut fixer si on trouve des bugs et on peut l'améliorer. On a des retours et on améliore en continu. Et ça, pour moi, c'est ultra crucial dans l'approche que Scaleway a, c'est-à-dire même par petite touche par petite touche, comment on va améliorer la vie des clients au fur et à mesure. Sur Functions et Containers, je crois que ça va sortir très bientôt, c'est même peut-être déjà disponible sans que personne ne le sache, mais il y avait quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte pendant la bêta, c'est de pouvoir customiser le port sur lequel sont attaquées les fonctions et les containers. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est quelque chose de crucial pour la plupart de nos clients. Et le produit est sorti, 4 semaines plus tard, on update le produit et c'est sorti de la même manière. Lucas, le product manager, travaille sur pouvoir configurer le domaine du conteneur pour sortir du domaine ultra compliqué qui est aujourd'hui fourni. Et en fait, on se rend compte en discutant qu'il y a des petites choses qui peuvent rendre la vie des clients beaucoup plus simple. Et effectivement, le travail, c'est de dire d'un product manager, c'est d'arriver à équilibrer les grosses fonctionnalités de tous ces petits quick wins qui vont faire que le produit est encore meilleur et que le client va se sentir valorisé par la qualité qu'on lui apporte.
Alors, j'imagine que c'est un processus qui est très suivi lors de la bêta. Est-ce que une fois quelque chose lancé en GA, est-ce que de la même manière, vous allez toujours chercher les retours d'utilisateurs, les améliorations à apporter, les changements à apporter, pour peut-être plus coller à un écosystème, etc., etc.?
Clairement. La phase de bêta, elle va permettre de raffiner, d'affiner une certaine vision, de corriger des bugs. On va pas se mentir, le but de la bêta, c'est d'être dehors et de prendre d'être à balles réelles et de voir comment ça se passe. On a une approche de dire, bon, voilà, vous avez un problème, on va vous contacter pour savoir comment le reproduire et nous arriver à corriger, parce que c'est toujours, donc ça marche chez moi, ça marche pas chez vous, et d'arriver à reproduire. Le product manager va être effectivement en constante, pour moi, il est en constant lien avec ses clients. La phase de bêta ou de GA, en fait, pour lui, ça doit être c'est agnostique. Et il est ultra important d'être toujours à l'écoute, justement parce qu'on a un produit qui peut s'améliorer. On n'est pas comme sur du hardware où on doit, entre guillemets, penser à la V2, c'est-à-dire une phase qui va prendre une année entière pour pouvoir fabriquer la V2, l'améliorer, rajouter une meilleure caméra, faire une meilleure chose, etc. Sur le logiciel, on a la possibilité et la capacité d'amener des améliorations en continu. Un produit qu'on lance, il va être là pendant 5-6 ans, il va peut-être, ou voire des dizaines d'années, il va peut-être être totalement différent du produit qu'il était, mais à l'origine, mais il n'y aura pas eu de rupture. On ne va pas avoir demandé aux clients d'aller à la Fnac et de racheter un nouveau produit pour profiter des nouvelles features. C'est quelque chose qu'on va mener en continu. Donc cette phase, en fait, une fois que le produit est sorti en GA, on rentre quasiment dans une phase infinie d'amélioration continue. Et pour ça, effectivement, notre Slack community est un endroit ultra important pour nos clients et nos product managers, parce que ça leur permet d'être en prise directe avec les clients. Il y a un an, on a lancé feature.scaleway.com qui permet, ou ids.scaleway.com, je suis désolé, je me rappelle jamais de l'URL, qui permet aux clients, en fait, de partager les features qui leur manquent et ils nous explicitent pourquoi. Et des fois, ils font des propositions de produits pour dire, bah, ce qui serait bien pour un minimum viable product, c'est d'avoir cette fonction, cette fonction, cette fonction. Et les gens commencent des threads de discussion et peuvent upvoter. Et nous, ça nous permet de définir, bah voilà, c'est une des sources d'informations qui nous permet de penser. Ce produit fait du sens, fait beaucoup de sens par nos clients, il est très discuté et il correspond à une certaine logique dans notre écosystème. Donc il y a toujours cette animation et le fait d'être à l'écoute de ses clients, c'est ultra important.
Une fois que la GA est sortie, donc tu as misé sur une stratégie qui fait que, restons dans l'exemple de la fonction, il y aurait de la traction naturellement vers la fonction. Peut-être qu'il y a eu les premiers utilisateurs de la fonction, mais après, comment est-ce que tu fais pour générer de l'attraction vers ce service? Comment est-ce que tu fais pour que le besoin des gens matche avec ce que tu as proposé?
Ça, c'est un travail qu'on a fait bien en amont, surtout dans le cadre de fonctions. En fait, on a sorti le produit fonction, mais on est conscient qu'on adresse aujourd'hui pas la totalité du marché serverless avec ce produit. Et littéralement, ça fait des mois entiers qu'on a une roadmap qui va au-delà de la GA, en fait. et qui va permettre de faire gonfler ce produit et surtout l'écosystème qui va autour. Le gros travail qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement les interactions avec l'écosystème Scaleway du produit fonction et du produit conteneur, et donc individuellement par des features. Et il y a aussi, dans toute architecture serverless, il y a la notion prégnante et très importante de messaging and queuing. Et c'est littéralement aujourd'hui un produit sur lequel on travaille dans notre écosystème pour que nos produits serverless soient encore plus puissants et répondent à encore plus de use cases de nos clients. Donc généralement, c'est anticipé. La GA, c'est une étape. Les product managers travaillent sur une roadmap à 12 mois. Pas moins, pas plus, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on sait grosso modo ce qu'on va sortir pour les 12 prochains mois. Donc les feedbacks clients, si on a été pertinent, ils sont déjà dans cette roadmap. Il peut y en avoir dès qu'ils ne le sont pas, et du coup ça va être un travail continu de se demander, est-ce qu'il faut que cette demande et ce besoin je le priorise, ou est-ce que je le mets dans mon backlog et je vais considérer que ça viendra après. Et ça, c'est un travail d'équilibrage et de choix qui est quasiment quotidien, au moins hebdomadaire, de se dire, est-ce que je repriorise ça ou est-ce que je chamboule les développements en cours pour avancer la livraison de telle feature.
Tout ça, c'est très technique, et la volonté derrière, c'est d'avoir le produit le plus parfait par rapport à l'écosystème. Cependant, c'est pas ça qui va faire forcément que tu vas avoir de la traction sur le produit. On a déjà vu des produits qui étaient en bêta et qui arrivaient à avoir une énorme traction, et d'autres qui étaient très aboutis et qui malheureusement décollaient pas. Comment, d'un point de vue peut-être plus marketing, cette traction, elle s'opère ?
D'un point de vue marketing, chez Scaleway, on a effectivement cette vue. Il y a des produits qui se vendent tout seuls. Il n'y a pas besoin d'en parler. Il y a des produits qui font partie des briques essentielles, et quand vous ne les avez pas, en fait, c'est au moment où vous les avez que vous vous rendiez compte à quel point ils étaient essentiels. Parce qu'en fait, le jour où vous les avez, il y a tout le monde qui le prend sans que vous ayez besoin d'en parler. Le storytelling est très important pour la plupart des autres produits. En fait, comprendre, c'est important d'expliquer et de vulgariser en quoi les produits qui sortent répondent à une problématique des clients. L'exemple de Cosmos, donc Kubernetes Manager Multicloud, est encore plus parlant parce que c'est un produit qui n'existe pas sur le marché. Et du coup, là, il faut faire un effort d'accompagnement, c'est-à-dire quand le produit est sorti, il faut ce qu'on appelle des testimonials, c'est-à-dire des témoignages de clients qui ont utilisé pour comprendre qu'on est en train de créer des nouveaux use cases, qu'il y a certains professionnels qui ont compris ces use cases et qui l'utilisent. Et l'aspect, en fait, quelqu'un l'utilise déjà et quelqu'un m'explique à quel point c'est utile, un de mes pairs potentiellement l'utilise, l'aspect bouche à oreille est très important. Là, on met beaucoup l'emphase sur la communauté et la relation avec les développeurs aujourd'hui. C'est ultra important de pousser du contenu qui n'est pas juste du marketing avec des couleurs, des prix pour appliquer des principes marketing au niveau, mais avoir quelque chose qui parle à nos targets et de maintenir cette relation pour avoir, avec les développeurs en l'occurrence, pour avoir un produit qui, à la fin, ou même dès le début, en fait, leur parle et qui comprennent en quoi ça va résoudre leurs problèmes.
Et ça passe par peut-être tes blog posts pour expliquer comment intégrer, par exemple, telle nouvelle feature avec une architecture. Ça passe aussi, est-ce que ça passe aussi par, comment j'appellerais ça ? Des Customer Success Management, est-ce que vous allez voir généralement vos clients pour faire des démonstrations, par exemple, de nouveaux produits et comment ça pourrait s'intégrer avec leur use case à eux ?
Ouais, exactement. Le Covid a mis un frein à tout ça il y a déjà bientôt 2 ans, mais effectivement, on anime pas mal. Donc déjà, il y a tout l'aspect donc webinar online qui est arrivé avec le Covid, donc animer donc les chefs de produits, des développeurs, des personnes du marketing et de la communication qui vont animer et expliquer des conférences virtuelles pour expliquer quelle est l'utilisation du produit. On avait ce qu'on appelait, et ce qu'on a toujours, des clubs utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va inviter des utilisateurs pour des événements privés pour justement déjà créer cette relation avec eux. Donc, quand on dit utilisateur, ça peut être des responsables d'entreprise, des développeurs dans une startup. Il y a le scope est très large. Et on va les inviter, en fait, pour récupérer, bah, déjà en profiter pour leur présenter Scaleway, l'écosystème, parce que tout le monde n'a pas la connaissance de tout ce qui est fait à l'intérieur. Et une chose très importante, littéralement, on en a un la semaine prochaine, donc cette semaine quand ça passe, une chose importante, c'est leur permettre à ces utilisateurs de parler entre eux de leur utilisation des produits, de quelle est l'utilisation qu'ils en font. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, ce sont les clients, par leur utilisation, qui font ce qu'est le produit. On peut le penser d'une certaine manière, ça se trouve, ils l'utilisent d'une autre, qui est pertinente pour eux, et c'est ça qui compte, c'est comment ils l'utilisent. Et généralement, on se rend compte que les utilisateurs parlent beaucoup entre eux de leur expérience, leur retour d'expérience, et mon impression, c'est que dans ce milieu-là, le bouche à oreille et l'expérience est ultra importante, en fait. Quand on va être habitué à utiliser tel logiciel, on va vouloir tout le temps le réutiliser parce qu'on a l'habitude, parce que on ne va pas avoir de friction et on va pouvoir se concentrer sur notre valeur ajoutée. Quand on fait un choix d'une solution logicielle, on va généralement effectivement se rappeler au passé ou au bouche à oreille. Ça m'est déjà arrivé d'interviewer un client, pourquoi vous utilisez Datadog? Parce que je connais un des fondateurs. Voilà, bouche à oreille, ce qui fait que... Et après, ça va devenir un évangélisateur du produit. Donc, c'est ultra important d'être proche, de maintenir cette qualité de relation avec la communauté. Et effectivement, avoir du contenu qui ne soit pas trop haut niveau, mais qui soit suffisamment pertinent pour parler à des gens qui ne connaissent pas le cloud, et à la fois, d'une certaine manière, avoir du contenu qui parle à des développeurs qui sont déjà cloud natives, c'est vraiment deux approches différentes, mais qui sont ultra importantes.
Tu apprends des choses, des fois, c'est... webinaires, est-ce que tu as des surprises, des cas d'usage que tu n'aurais jamais pensé?
Oui. Est-ce que j'ai des exemples en tête? Ça va être ça le plus drôle. Littéralement, oui, on s'attend pas. Il y a des fois des choses ultra obvious pour les clients qui vont nous amener d'un... On n'a pas la science infuse, on peut pas connaître tous les use cases de tous les clients. Et en fait, des fois, le but, c'est de retourner le maximum de pierres. Et des fois, on retourne une pierre et on se rend compte qu'il y a une forêt énorme derrière et qu'on découvre un champ de possible, que les clients ont transformé l'utilisation du produit pour en faire autre chose. Par exemple, utiliser Function as a Service pour automatiser de l'infrastructure. Moi, ça m'a surpris personnellement que ça pouvait être utilisé comme ça. J'associais énormément le functions à du média, c'est-à-dire agir sur du contenu. Et je me suis rendu compte que les clients, donc ça c'est moi personnellement, utilisaient functions pour interagir sur de l'infrastructure. Ça, je m'y attendais littéralement pas. Après, on est aussi étonné par des clients qui vont utiliser tel produit qui est en bêta pour faire de la prod. Et là, on se dit... Vous êtes conscient de ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, on accepte, on les remercie de nous faire donner cette confiance, et ça nous permet de, enfin nous, ça nous force à élever notre niveau à chaque fois sur tous les produits.
Alors justement, parlons de niveau un peu élevé. Moi, j'avais eu la chance de recevoir Rémi Léon il y a quelques temps de ça. Est-ce que j'ai trouvé, par exemple, dans Capsule, par exemple, la façon dont c'est implémenté, il y a eu des choix qui ont été à l'époque très pertinents, mais presque très en avance. Par exemple, pour ne citer que ça, le choix du network driver qui est Cilium, à l'époque où tout le monde encore était sur Calico et où c'était loin d'être mainstream, Cilium et eBPF. Donc, comment ça se décide? Parce que vouloir être assez précurseur, même si on est plus petit que d'autres, hein, parce qu'évidemment, face à un Amazon ou un Google, Scaleway, c'est pas encore la même taille, mais cela dit, avoir des choix avant-gardistes par rapport même à ces cloud providers-là, c'est quand même très surprenant.
Alors, littéralement, là, ce sont des choix techniques. Du coup, des fois, les choix techniques peuvent être drivés par le product manager qui, par sa connaissance du marché et de ses clients, va savoir que tel produit répond mieux à un besoin, ou alors par l'audace des développeurs qui vont avoir une intuition forte sur la qualité de telle solution. Il faut souvent se concentrer sur quel est, enfin c'est important de se rappeler pourquoi on fait les produits ou même pour les développeurs. Quel problème que je souhaite résoudre. Et en fait, de ne pas avoir d'œillères sur c'est évident que la solution, c'est ça. Et de se rappeler et d'ouvrir les chakras pour se dire quel problème que j'essaye de résoudre. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me permet de résoudre de manière plus pragmatique ce problème? Donc, pour le choix de Cilium, je n'étais pas présent et je ne sais pas quels ont été les drivers. Mais chez Scaleway, il y a quelque chose qui est un petit peu, voire très dans l'ADN, c'est il ne faut pas hésiter et on ouvre la porte aux ingénieurs à tenter des choses. Ça peut être pérenne. Ça peut se planter royalement, mais ne pas fermer naturellement toutes les portes en se disant « non, on est mainstream, on va choisir la même chose que tout le monde ». On peut finir par choisir la même chose que tout le monde, parce que si tout le monde l'a choisi, c'est qu'il y avait une raison. Mais il faut aussi savoir s'ouvrir les portes à, en fait, il y a quelque chose qui ne paraît pas évident en premier abord, mais qui in fine se trouve pertinent et on va pouvoir suivre cette traque. Et c'est cette ouverture d'esprit qui est promue en interne qui permet d'avoir des choix qui se révèlent audacieux et avant-gardistes à certains moments du développement.
C'est-à-dire que vous êtes très à l'écoute chez Scaleway de vos équipes techniques.
Oui, les équipes techniques sont centrales. Ça a été longtemps la manière dont étaient construits et dont étaient organisées les équipes produits. Donc c'est entre guillemets dans notre ADN. On fait évoluer cette organisation pour être plus efficace. Néanmoins, c'est ça la beauté d'être un cloud provider, c'est que les développeurs qui travaillent chez nous sont aussi des clients, d'une certaine manière. Donc, quand un product manager va interviewer des clients, il s'avère qu'il en a des très proches. Et du coup, en fait, pour un développeur, être capable d'influer sur le produit, c'est quelque chose de très tentant et sur lequel ils ont beaucoup d'impact. Néanmoins, c'est pas anodin quand on dit que c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Du coup, si on laisse un développeur construire un produit, il y a des chances non négligeables que ça réponde à son besoin à lui et qu'il n'ait peut-être pas vu la big picture. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à avoir une vision client un peu plus poussée via le product manager. Néanmoins, clairement en interne, les product managers s'appuient pour la plupart, si ce n'est pas pour tous, sur les devs parce qu'ils ont cette expérience en tant que... La moyenne d'âge est très jeune chez Scaleway, donc en tant que cloud natif, de l'utilisation des produits et de ce qui pourrait être pertinent pour les clients.
Autre sujet qui est super intéressant, c'est la roadmap, pas en elle-même, mais être un cloud provider, c'est avoir énormément de portes ouvertes parce que l'écosystème est gigantesque. Il y a des tonnes de produits que vous pourriez faire et dans la tonne de propositions que vous avez, il faut prioriser. Comment tu t'organises pour dire ce truc-là, ouais, c'est vrai que c'est un super chouette produit, mais c'est pas pour maintenant.
Alors, comment on s'organise pour savoir? Déjà, en fait, on a la vision d'entreprise, la direction dans laquelle on souhaite aller. Ensuite, on définit la stratégie, c'est-à-dire quel va être le chemin qu'on va prendre pour aller dans cette direction. Ça peut être un chemin tortueux, ça peut être une ligne droite. Et ensuite, il y a les tactiques qui consistent à dire quelle voiture je vais prendre, quel type d'essence je vais prendre pour rouler sur ce chemin. Généralement, quand on se raccroche à tout ça et que tout ça est clair, tout paraît à peu près évident. Ça paraît stupide de dire ça, mais tout paraît à peu près évident. Quand on définit une stratégie claire, on se rend compte que... d'une manière évidente, il nous manque ce produit pour aller dans cette direction. Quand on décide d'aller dans le serverless, il nous paraît de manière évidente qu'il nous manque un produit de messaging pour avoir un écosystème serverless pertinent. De la même manière, aujourd'hui, on n'a pas de base de données serverless à proprement parler, telle que Dynamo ou Aurora. Et effectivement, ça manque à notre écosystème pour pouvoir pousser des archis et des applications à des clients qui veulent une approche full serverless. Donc, il y a des choses qui paraissent évidentes. Il y a d'autres, des fois, où on va plus avoir il faut c'est ultra important. On a plusieurs produits, donc plusieurs chefs de produits. C'est ultra important de garder l'aspect écosystème en tête. C'est-à-dire que c'est bien beau qu'un produit avance dans sa direction, mais comment on peut, quand on réfléchit à prioriser, on réfléchit aussi comment on améliore l'écosystème et l'expérience au global plutôt que l'expérience sur un produit particulier. Les clients d'un cloud provider sont pas clients d'un seul produit. Généralement, ils en ont 3, 4 ou 5 produits. Donc, c'est ultra important de amener de la valeur ajoutée sur l'écosystème au global au maximum. Et quand on réfléchit à ça, généralement, la priorisation des fonctionnalités et des produits devient évidente.
Est-ce que c'est si évident que ça? Parce que justement, tu me parles de la fonction et tu me dis, il y a deux produits qui auraient vraiment beaucoup de valeur à être ajoutés à la fonction. C'est une DB style Dynamo et du Message Queue. Comment tu fais le choix? Ou est-ce que tu as suffisamment de place ou de développeurs aujourd'hui pour avoir les deux sujets en parallèle?
Littéralement, on a la place et les développeurs pour aborder les sujets en parallèle. Néanmoins, il y a toujours une idée de priorisation. Donc, effectivement, je citais deux produits. Il y en a une petite dizaine juste derrière qui toque à la porte. Donc, oui, il faut prendre trancher et prendre des décisions dans certains cas de figure sur quel produit on va faire avancer plutôt qu'un autre. Les choix, des fois, sont évidents. Généralement, encore une fois, quand on écrit les choses sur la table, on se rend compte que oui, ça fait plus de sens d'avoir ce produit que celui-là. Par exemple, vous allez avoir les produits qui sont chez Scaleway. Ça fait donc 3 ans qu'on a un écosystème cloud public, qu'on a commencé à l'avoir. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fini une première phase. Alors, on a toutes les briques essentielles pour dont on parlait tout à l'heure. Quels sont les éléments qui nous manquent pour passer au niveau d'après, c'est-à-dire pour répondre à encore plus de besoins? On va effectivement choisir et identifier lesquels. Donc, il y en a, c'est des éléments que j'appelle de glue, qui permettent de faire communiquer les clients entre eux. Un produit de messaging, par exemple, d'avoir un produit, ça s'appelle un produit, mais une gestion plus fine des droits d'accès, donc un équivalent à IAM. La VPC Gateway qu'on a lancé récemment en GA, c'était un produit ultra important qui nous manquait. Et effectivement, ceux-là sont bien identifiés. Et ça paraît, encore une fois, ça paraît stupide de dire ça, mais c'est à peu près évident. Il n'y a pas trop on n'a pas trop à trancher de manière absurde sur on fait plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Les choix sont généralement assez évidents, encore une fois. Et quand on a besoin de trancher, c'est des choix qu'on impose. On les documente le mieux qu'on peut, c'est-à-dire on se référence à la stratégie. C'est-à-dire la stratégie, c'est d'adresser les cloud natives, par exemple, et les cloud natives vont avoir plus besoin de ce produit A que du produit B, donc on va prioriser le produit A, par exemple, et potentiellement ne pas faire le produit C.
Ok. Une dernière question alors. Est-ce que tu trouves ça inspirant d'avoir des challengers, en tout cas des compétiteurs comme Google, comme Amazon, comme Azure? Est-ce que ça te donne des idées? Est-ce qu'au contraire ça t'enlève toutes tes forces? Ou c'est quoi ton rapport à la concurrence? Et est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif de ton point de vue, ou quelque chose auquel tu fais attention tous les jours?
La concurrence, oui, on y fait attention tous les jours. Encore une fois, il faut avoir l'humilité de savoir à qui se comparer. Il y a certains qui peuvent apparaître comme un Everest, donc il faut être conscient de ses forces. Il faut savoir là où on va pouvoir appuyer. Un AWS, un Azure, un GCP vont avoir des produits. Ils pavent le chemin, en fait, d'une certaine manière. Je dirais pas que eux sont challengeants. Ce qui est challengeant et qui donne du contexte et de l'excitation, c'est nos challengers européens, certains américains, qui vont trouver justement le produit ou l'approche produit qui va permettre, qui vont se dire c'est plutôt bien joué, c'est plutôt finement joué. Je pense. Et je vais évidemment oublier leur nom. Je pense récemment à Cloudflare, donc avec leur move de lancer leur S3, R2, avec leur approche serverless edge, avec leur CDN. Ça, c'est une approche qui est intéressante, un petit peu disruptive sur le marché, qui a été longue. On sent que c'est une stratégie de longue haleine, qu'ils ont mis pièce par pièce pour arriver là, et ça, c'est ultra intéressant. Des gens comme AWS, ils vont sortir des nouvelles fonctions, de nouveaux produits, mais ils ont une telle force de frappe qu'on est à peu près persuadé qu'ils en ont 10 des idées comme ça, qu'ils en développent 10 et qu'ils en killent 9 et qu'ils en gardent une. Donc c'est difficile de se dire on va pouvoir se battre avec ça. Donc il faut vraiment appuyer sur nos forces, notre agilité. On a une plus petite structure, donc on a vocation à être plus proche de nos clients, à répondre à des besoins plus précis et plus ciblés. On est voilà exactement savoir pérenniser sur nos forces, donc on est connu pour avoir une console, une interface utilisateur plutôt très user friendly versus d'autres. Et ben appuyons là-dessus, regardons comment amener encore plus de services à valeur ajoutée à travers cette interface pour répondre à des besoins en fait concrets et d'avoir des produits encore une fois simples pour lesquels les clients ont le choix, de pas avoir à se poser la problématique de je vais devoir lire une notice de 300 pages pour comprendre comment fonctionne le produit. Non, avoir une approche un peu plus simple dans la technique, dans la facturation, c'est très important. C'est un gros critère de choix aujourd'hui. Comprendre quelle va être ma facturation, savoir où vont être stockées mes données, comprendre comment est acheminée l'énergie aux data centers qui vont s'occuper de la puissance de calcul des données, ce sont des éléments importants sur lesquels nous, on est en mesure de se positionner et d'appuyer.
Eh bien, écoute, super. Tu me donneras tous les liens nécessaires, évidemment, que je l'ajoute aux notes de l'épisode. Et puis, je te dis un très grand merci pour ce partage sur Scaleway. C'était vraiment passionnant.
Merci beaucoup, Stéphane. C'était un plaisir.
Retrouvez Gaspard sur LinkedIn et Scaleway sur scaleway.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.